Bonjour, la psychose autour des légumes contaminés prend de l'ampleur en Europe. Les chercheurs n'ont toujours pas trouvé l'origine de l'épidémie qui a causé la mort de 16 personnes. Mais on sait que les victimes avaient mangé des concombres, des tomates ou de la laitue. Nous entendrons le reportage de Michel Eman au marché de Lausanne ce matin. Puis nous appellerons Alexandre Cudé de l'Union maraîchère suisse et le sociologue spécialiste des peurs alimentaires Jocelyn Rode. Toujours au menu de ce journal, la fameuse initiative Minder sur les salaires abusifs qui occupe les parlementaires depuis 3 ans maintenant. La conseillère fédérale Simonetta Sommaruga leur a demandé de se mettre enfin d'accord sur un compromis, nous dira Christian Favre. Nous parlerons aussi nucléaire avec la remise à Genève d'une pétition d'opposition à l'ouverture d'un centre de stockage des déchets en France voisine. Près de 4 ans après la mort de Fred Chichin, son complice à la scène et à la ville, Catherine Ringer sort son premier album solo de l'après Rita Mitsouko. 12 titres aux saveurs pop, rock et électro qui montrent que l'auteur-compositeur-interprète a fait le deuil de cette tragique disparition. Elle sera demain en concert au Festineuch. Interview à suivre à la fin de ce journal. Le temps redeviendra sec cet après-midi avec des maximales à 13 degrés. La bise se renforcera sur le plateau. Elle sera même tempétueuse sur le bassin lémanique avec des rafales à 90 km/h. Retour du soleil et de la douceur demain, mais la bise sera encore bien présente, nous dira Stéphanie Collère. Concombre, tomate ou laitue, difficile de dire aujourd'hui lequel de ces légumes est à l'origine de la contamination bactérienne qui a déjà causé la mort de 15 personnes en Allemagne et fait un décès également en Suède. Pointé du doigt au début de l'épidémie, l'Espagne ne serait pas forcément à l'origine de cette crise alimentaire. Michel Eman est allé prendre la température ce matin au marché de Lausanne. Écoutez.
Je vais prendre un deuxième panier, hein. Mais vous me donnez un petit sachet, s'il vous plaît, là, pour les framboises.
Oui. Madame, des concombres, vous en achetez ?
Oui, j'en achète.
Vous n'avez pas peur ?
Non, je les lave. Et si j'ai trop peur, je les cuis.
Bonjour, monsieur.
Bonjour, monsieur.
Alors, vos concombres, ils viennent d'où ?
Mes concombres, ils viennent d'ici, du pays. C'est le pot qui joue sur le marché. Mais on a la peine à les vendre aussi, parce que maintenant, avec l'histoire qu'il y a eu, alors les gens, ils se méfient, quoi.
Tout le monde, il raconte c'était la concombre, mais... Il faut savoir, est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Ça vient d'Espagne, il y a quelqu'un qui dit Espagne. Tout le monde dit que c'est malade. Malade à Suisse, malade à Allemagne, malade, je ne sais pas, Autriche, mais il n'y a personne qui dit malade à Espagne. Alors comment ça se fait qu'il vient d'Espagne et puis il n'y a pas de malade d'Espagne? Il faut savoir.
Et vous, vos concombres, ils viennent d'où?
C'est Suisse, c'est la vérité.
On a des clientes qui nous demandent s'ils sont de notre production, s'ils sont d'ici. Et puis ils apprennent. Je viens d'en vendre deux à une cliente qui m'a dit oh, « Moi, on est sûr de la production, de la provenance du produit. » Et puis, ce sera pas de question, pas de problème. Aujourd'hui, il y a une mévente qui est due au froid plutôt qu'à bactéries, enfin des soucis, des problèmes du concombre espagnol. Le froid, ça a toujours été un légume qui se vend pas très bien quand il fait froid. Comme la tomate, c'est identique. Mais samedi, il faisait chaud, la vente s'est faite normalement.
Non, on n'achète pas de concombres, non. Probablement à cause de ce qui se passe en Allemagne, oui.
Et si on vous dit que les concombres sont suisses ?
Alors, ça, je pense que je prendrai des concombres locaux, oui, bien sûr, oui.
Merci beaucoup, madame. Bonne journée, au revoir.
Le premier concombre de la saison, voilà.
Bonjour.
Bonjour, madame. Vous venez d'offrir un concombre suisse, j'imagine, à ces dames.
Mais écoutez, c'est une grande émotion pour nous de récolter les tout premiers. Alors voilà, je l'offre très volontiers à monsieur et madame Marmier, qui sont des clients fantastiques. Et puis, je souhaite le bon vent aux concombres, parce que c'est vrai que quand on privilégie la proximité, je pense que c'est aussi un grand avantage pour le client au point de vue écologie. On a besoin, on parle que de ça, que d'écologie, mais achetez région. Pas région, mais achetez chez votre maraîcher.
Donc, en un mot, vive le concombre suisse.
Vive le concombre suisse, et il est délicieux.
Il est local.
Un reportage signé Michel Eman. Nous sommes en ligne avec Alexandre Cudé. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes membre du comité de direction de l'Union maraîchère suisse. Vous êtes formel, aucun risque de bactéries pour les fruits et légumes produits en Suisse?
Non, effectivement, toute la production locale, nous sommes soumis à des labels de qualité Suisse Garantie, Suisse Gap, qui nous assurent une bien facture de notre production. Et je crois que le risque est nul chez nous d'obtenir des plantes contaminées telles qu'on entend actuellement de ce qui se passe en Allemagne ou ailleurs en Europe, pour la simple et bonne raison qu'on arrose principalement avec de l'eau du réseau. Donc il n'y a pas de risque de pompage, de contamination d'eau ou par d'autres biais.
Cette épidémie a évidemment des répercussions importantes sur les ventes de fruits et légumes. Vous arrivez à chiffrer l'impact ?
L'impact, moi sur Genève, je vends tout à travers l'Union maraîchère de Genève, qui commercialise les 90% de la production de légumes et entre autres de concombres de Genève. La vente depuis ce début de semaine, elle est peut-être de 20% de ce qu'elle devrait être habituellement. Donc il y a un impact très très fort.
On parlait des concombres, on apprend ce matin que la contamination peut aussi venir de tomates ou de la salade. Les consommateurs risquent finalement par précaution de bouder un peu tous les fruits et légumes ?
Ben, je le crains. C'est clair que en tant que consommateur, on prend vite peur sur des affirmations gratuites faites sur la base d'investigations apparemment mal cerné, c'est clair que la crainte est là, que ça se répercute à tous les légumes. Mais je crois que, de nouveau, comme on l'a entendu dans le reportage précédent, en achetant local, je crois qu'on limite drastiquement ce type de risque et on peut avoir la confiance et le rapport avec le maraîcher ou le vendeur qui affirme d'où vient le produit.
Donc finalement, ça peut être bon pour vous aussi de privilégier et d'inciter les consommateurs à consommer local ?
Alors, c'est bien sûr que c'est bon pour nous de consommer local, donc c'est ce qu'on veut, c'est tout à fait dans l'air du temps. Les gens veulent de la proximité, veulent du contact avec leur producteur, leur vendeur. Ils veulent être rassurés sur la qualité de ce qu'ils mangent, sans parler de l'environnement, la pollution, des transports et des manières de faire qu'on ne connaît peut-être pas totalement quand c'est produit à l'extérieur du pays. Donc, j'irai pas jusqu'à dire que c'est quelque chose de bénéfique ce qui nous arrive là maintenant, mais je pense que c'est une occasion pour les gens de se poser la question, d'acheter local et d'être sûr d'où vient leur produit.
Merci beaucoup Alexandre Cudier d'être venu quelques minutes dans ce journal, membre du comité de direction de l'Union maraîchère suisse, invité par Natacha Van Kutsem. Bon après-midi à vous, merci.
Au revoir, merci.
Et nous avons joint tout à l'heure le sociologue français Jocelyn Rhode, professeur à l'école des hautes études de santé publique à Rennes, spécialiste des peurs alimentaires. Il estime qu'on revit un peu la crise de la vache folle, écoutez.
On est en train de revivre à peu près la même séquence que ce qu'on avait observé il y a quelques années autour de la crise de la vache folle. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un scénario commun qui est en train de se mettre en place. On assiste à ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, des transgressions catégorielles, c'est-à-dire qu'on a un effet de surprise au sein des consommateurs qui est lié au fait que, fondamentalement, les légumes, les fruits et légumes sont perçus majoritairement comme des produits sains. En général, les gens classent les aliments carnés ou les aliments animaux, éventuellement tout ce qui est coquillages et mollusques, comme étant des catégories à risque alimentaire, alors que les fruits et légumes, tout ce qui est à peu près végétal, est plutôt très majoritairement perçu comme sans risque et plutôt bon, sain pour la santé. Donc on a vraiment l'idée majoritaire dans nos populations modernes, occidentalisées, que la nature est bonne, fondamentalement bonne, saine. Et par conséquent, cette crise-là, elle révèle ces catégories implicites, hein, du bon, du sain versus le risque et le malsain, que on n'est pas à l'abri de ce type d'événement également pour des aliments de type végétaux.
Face au risque, certains consommateurs prennent des décisions radicales. Certains ont décidé de ne plus manger de fruits et légumes en raison de cette bactérie du concombre. C'est une application, on va dire, assez extrême quand même du principe de précaution.
Oui, elle est assez habituelle en fait. C'est exactement ce qu'on avait observé il y a une dizaine d'années maintenant en Europe continentale pendant la crise de l'ESB, hein, donc la crise de la vache folle. Mais avec ceci près que la viande bovine, au moins en France, mais c'est aussi le cas en Italie par exemple, est vraiment un élément symboliquement très fort qui occupe une place fondamentale dans notre alimentation. Or, sur les concombres, on est plutôt ce qu'on appelle des aliments périphériques, hein, c'est-à-dire des aliments qui sont largement consommés mais qui n'occupent pas une place symbolique très forte dans notre système alimentaire. Et par contre, conséquent, il est probable qu'on ait une baisse de moitié, plus de moitié de la consommation habituelle de ces produits-là. Alors le problème, c'est que on pensait avoir identifié l'auteur, si j'ose dire, de ces cas de décès et d'hospitalisation. Or, il s'avère que maintenant, on est repassé dans une période forte d'incertitude, puisque le concombre lui-même n'est plus incriminé. Il semblerait que les sources de contamination soient multiples. Donc, on va rentrer à nouveau dans une période d'incertitude, où, si vous voulez, d'une certaine manière, la stigmatisation du concombre permettait de faciliter, de réguler la crise. Les gens étaient tranquilles en disant « je vais éviter le concombre » et comme ça, on est tranquille. On va à nouveau rentrer dans une période d'incertitude et on ne sait pas trop ce que ça va donner dans les semaines qui viennent encore.
Vache folle, grippe aviaire, concombre contaminé, on a finalement l'impression qu'on prend des risques à chaque fois qu'on passe à table. C'est une particularité de notre époque où ces phénomènes de peur alimentaire ont toujours existé, Jocelyn Rhode.
Ce sont des phénomènes qui caractérisent notre époque puisque ça manifeste un peu le rapport ambigu qu'entretiennent les consommateurs aujourd'hui avec leur alimentation qui est beaucoup moins connue, beaucoup moins locale, qui est sur des filières longues, internationalisées, donc complètement caractérisé par une mondialisation avec ce qu'on appelle une multiplication des OCNI, des objets comestibles non identifiés dont on ne sait pas d'où ils viennent et quel est leur circuit.
Jocelyn Rhode, professeur à l'école des hautes études de santé publique à Rennes, spécialiste des peurs alimentaires. Combien de soldats pour quel prix? C'est le débat employé ce matin par le Conseil des États qui décortique aujourd'hui l'avenir de l'armée suisse avec trois variantes en concurrence. Celle du Conseil fédéral qui prévoit 80 000 soldats pour 4,4 milliards de francs par an. Celle de la majorité de la commission préparatoire qui veut 100 000 hommes pour 5,1 milliards. Et la variante la plus généreuse qui exige 120 000 militaires, Christelle Domingeau.
Oui, la décision vient tout juste de tomber. C'est la variante présentée comme un compromis, donc à 100 000 hommes, qui vient d'être acceptée. Ceci pour un montant annuel de 5,1 milliards. Un choix défendu ce matin par tout un état-major de gradés qui a plaidé pour une armée bien équipée pour faire face aux menaces, d'autant plus important que l'armée traverse en ce moment une phase de doute. La variante gagnante est certes chère, mais nécessaire pour une majorité de droite, car la Suisse, pays neutre, ne se défend pas comme les autres pays. C'est le point de vue défendu par le conseiller aux États PDC valaisan Jean-René Fournier.
Il est dans l'ordre des choses qu'une armée d'un pays neutre coûte plus cher qu'une armée d'un pays profitant d'une alliance militaire. En effet, l'armée d'un pays neutre doit fournir à sa population l'éventail complet des prestations de sécurité, alors que l'armée d'un pays profitant d'une alliance militaire peut compter sur les prestations de sécurité fournies par l'alliance et économiser ainsi des moyens importants.
À l'autre bout de l'échiquier politique, on est évidemment moins enthousiaste à l'idée de délier les cordons de la bourse pour payer une armée encore plus nombreuse et plus chère. Surtout que ça se fera au détriment d'autres tâches de l'État, les ressources n'étant pas extensibles. La variante du Conseil fédéral à 80 000 hommes pour 4,4 milliards était déjà vécue comme un maximum. Le ver vaudois Luc Recordon voit même quelques potentiels de coupe.
Garder une sorte de moignon d'armée classique ressemble aujourd'hui bien davantage à une sorte de lot de consolation pour les nostalgiques de l'armée à l'ancienne qu'à un instrument utile. En particulier, il faut renoncer clairement à maintenir des chars de combat, de l'artillerie et des avions de guerre.
Et le remplacement des vieux avions de combat Tiger, c'est justement l'autre grande question du jour qui est débattue en ce moment au Conseil des États.
Et le Parlement poursuit aujourd'hui son débat fleuve sur l'initiative de Thomas Minder qui veut limiter les salaires abusifs, un véritable serpent de mer qui occupe les parlementaires depuis 3 ans. Ils sont incapables de s'entendre sur la réplique à donner au texte très populaire de l'entrepreneur chafouzois. Et la ministre de la Justice, Simonetta Sommaruga, leur a demandé de se décider enfin pour un compromis, Christian Favre.
Il faut dire qu'à force de s'enliser, ce dossier exaspère sous la coupole. On avait cru apercevoir la fin du tunnel en décembre quand le Conseil des États s'était mis d'accord pour une alternative à l'initiative Minder via une modification de la loi sur les actionnaires avec un point fort, l'imposition des bonus de plus de 3 millions. Or, en mars, le Conseil national a refusé cette solution, renvoyé le dossier en commission. Aujourd'hui, on repart donc pour un tour. Simonetta Sommaruga a insisté en début de séance parce que l'initiative Minder n'apporte pas des solutions satisfaisantes. Les chambres doivent proposer un contre-projet. Mais attention, il doit être consistant, c'est-à-dire contenir cette fameuse taxe sur les bonus, une taxe souhaitée par le Conseil fédéral, mais qui fait mal au ventre aux élus UDC et PLR. Une fois de plus, le PDC pourrait faire pencher la balance. C'est lui qui a fait passer ce projet aux États. S'il vote unis, une majorité est possible. Ce serait un grand pas vers le bouclement de ce dossier et un vote populaire, par exemple en 2012. Dans le cas contraire, un délai supplémentaire d'une année sera prononcé. Réponse cet après-midi sous la coupole.
Christian Favre en direct de nos studios du Palais fédéral à Berne. Le changement de nonce apostolique en Suisse annoncé samedi dernier aura-t-il des conséquences sur la succession à l'évêché de Lausanne, Genève et Fribourg? C'est la question qu'on peut se poser après l'annonce le week-end dernier de la nomination de Monseigneur Diego Cozzero pour remplacer Francesco Canalini. Pierre Berset.
Le nonce apostolique joue un rôle capital en cas de vacance à la tête d'un évêché. Outre sa fonction officielle de diplomate du Saint-Siège auprès de la Confédération, c'est à lui que revient la délicate tâche de préparer les successions dans les diocèses. Un rôle de chasseur de tête, en quelque sorte. Et l'actuel nonce apostolique, Monseigneur Canalini, atteint par la limite d'âge, s'est tellement bien attelé à cette tâche qu'il a préparé pour homme bien plus que la traditionnelle liste des trois noms potentiellement épiscopables. Mais trois listes successives comportant une dizaine de noms plus ou moins crédibles pour ce rôle, ce qui explique peut-être aussi le long délai. Vu le peu d'empressement à Rome pour faire son choix, quid alors de l'influence du nouveau nonce dans cette interminable procédure? Les observateurs se souviennent bien que la nomination de Mgr Genoux après 9 mois était intervenue juste après un changement à l'annonciature et que le nouveau venu avait repris la procédure à zéro, ignorant le tiercé des candidats initiaux pour aboutir au choix de Mgr Genoux. Le dossier va-t-il connaître le même sort, difficile à dire, improbable même. On sait que Rome aurait activé le dossier pour examen. On chuchote même qu'une décision du pape pourrait tomber sans trop tarder, au point que certains espèrent une nomination avant l'été. Je ne vous ferai pas de pronostic sur le nom du futur évêque du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg.
Une affaire à suivre, comme on dit. L'audience de comparution initiale de l'ancien chef militaire des Serbes de Bosnie, Ratko Mladic, aura lieu vendredi matin devant le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Alors qu'à Belgrade, les informations commencent à filtrer sur les dessous de son arrestation la semaine dernière dans un village serbe, Laurent Rouy.
L'arrestation de Ratko Mladic a-t-elle été négociée à l'avance avec le criminel lui-même? C'est la thèse de la presse croate qui avance ce matin que les autorités serbes ont négocié avec Ratko Mladic pendant plus de 1 an les détails de sa reddition. Ratko Mladic aurait ainsi obtenu des garanties quant au sort réservé à sa famille, le versement d'un arriéré de pension de retraite de 47 000 euros et la possibilité de se rendre sur la tombe de sa fille. Le gouvernement serbe, lui, aurait pu choisir le meilleur moment pour l'arrestation. Toujours selon la presse croate, les services secrets français, britanniques, allemands et américains étaient informés de ces négociations et certains d'entre eux y auraient participé. À l'appui de cette thèse, le journal cite des diplomates sous couvert d'anonymat et note que le propriétaire de la maison où a été arrêté Ratko Mladic est retourné chez lui sans être aucunement inquiété par la police. Laurent Rouy, Radio Suisse Romande, Belgrade.
Et le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie a fait savoir ce matin qu'il ferait le maximum pour que le procès de Ratko Mladic ne s'éternise pas.
Le 12-30, David Racana.
Remise d'une pétition ce matin à Genève, une pétition d'opposition à l'ouverture d'un centre de stockage des déchets nucléaires au Bugey en France voisine. Bonjour Mathilde Captine.
Bonjour.
Vous êtes députée verte genevoise. Pourquoi finalement ça vous inquiète?
Écoutez, on a appris, je pense comme vous, effectivement par le temps qu'il y a un projet de stockage de déchets nucléaires radioactifs sur le site de la centrale nucléaire du Bugey. C'est à environ 70 km de Genève à vol d'oiseau, 120 km par la route. Et ça nous inquiète tout simplement parce que c'est potentiellement dangereux pour la région. Et ce qui est d'autant plus inquiétant, c'est que le gouvernement genevois, le Conseil d'État, semble ne pas avoir reçu d'informations là-dessus.
Quelle est concrètement la nature du danger?
Alors écoutez, le danger potentiel, c'est qu'à partir du moment où on stocke, pour 50 ans environ, des déchets nucléaires, c'est des déchets qui sont radioactifs, on le stocke dans du béton, le béton peut se fendre, et puis ça peut avoir des effets radioactifs sur la région, et avoir, comme Fukushima le démontre, des conséquences dramatiques sur le plan environnemental et évidemment sanitaire, la population.
Ce centre est situé en France voisine, vous pensez vraiment que les autorités genevoises ont les moyens de stopper le projet?
Alors, écoutez, nous, on se base sur le recours que le Conseil d'État avait adressé au Conseil d'État français, c'est une institution française, en 1996, par rapport à Crémalville. Vous savez, comme moi, que l'expérience de Crémalville a été positive, puisque deux ans après, en 98, le site a été fermé. Donc là, il y a un passé, en tout cas, qui nous permet de croire que le Conseil d'État peut avoir un effet positif. En tout cas, il doit le faire selon la Constitution genevoise. Et on attend de lui, en tout cas, qu'il applique la Constitution.
On a l'impression que vous surfez quand même un peu sur la vague antinucléaire née de l'accident de Fukushima. Vous le reconnaissez ?
Bah, surfer, c'est une question de point de vue. L'accident de Fukushima est absolument dramatique. On a une bombe en permanence en exécution à Fukushima. Et je veux dire, il faut juste se rendre compte de la gravité, je dirais, du fait pour les Japonais en l'occurrence, le monde et bien les centrales nucléaires sont partout. Donc surfer, c'est un point de vue. En tout cas, c'est sûr que je dirais les dangers liés au nucléaire sont absolument présents et quotidiens.
Mais la centrale du Bugey existe depuis 30 ans, elle n'a jamais posé de problème jusqu'à aujourd'hui.
Alors, bon, il y a d'abord des voix qui disent pas tout à fait la même chose. Certains renseignements démontrent que c'est pas si rose que ça. Il y a parfois des pannes, enfin, c'est pas si évident. Et puis, dans la mesure où on stocke des déchets radioactifs pour les 50 prochaines années, eh bien, ça nécessite en tout cas que la population le sache. Un reportage de la TSR a démontré que les habitants autour du lieu du Bugey n'étaient pas vraiment au courant de ce qui se passait. Et puis, rien qu'en termes de communication, d'information, je dirais, le travail n'est pas fait.
Merci beaucoup, Mathilde Captine, d'être venue quelques minutes en direct dans ce journal. Députée verte genevoise, invitée par Virginie Mater. Bon après-midi à vous. Merci.
Merci, au revoir.
Suite des quarts de finale aux internationaux de France de tennis, Rafael Nadal affronte le Suédois Robin Söderling. En petite forme, l'Espagnol est à la peine sur la terre battue de Roland Garros cette année, Laurence Bolomé.
L'encore numéro 1 mondial a remporté l'an dernier le dernier grand chelem qui lui manquait, l'US Open. Mais pour réussir à s'imposer sur toutes les surfaces, il a dû beaucoup faire évoluer son jeu. Alors ses progrès l'ont-ils quelque peu déstabilisé sur sa surface de prédilection ? La réponse d'un observateur également vainqueur sur toutes les surfaces, Roger Federer.
Non, je pense pas, non, vraiment. Je pense que c'est très bien ce que Rafael a fait, et beaucoup d'autres joueurs aussi, d'essayer de quand même travailler sur les surfaces moins aimées, par exemple. Mais après, par exemple, au début, j'avais quand même pas mal de problèmes avec mon revers. Et il fallait même pas beaucoup s'entraîner dessus parce que tout le monde me jouait dans mon revers. Alors forcément, au fur et à mesure des années, tu progresses. C'est peut-être la même chose comme au début, on dirait, ah, de frapper fort dans le coup droit de Rafa, c'était une bonne chose. Aujourd'hui, il a plus de problème avec ça parce qu'on a beaucoup trop fait ça, je veux dire, à un moment donné. C'est comme un super entraînement. Alors on apprend quand même beaucoup pendant les matchs. On arrive quand même aussi à progresser en jouant des matchs, mais à la fin, l'entraînement, c'est quand même très important aussi de faire beaucoup de répétitions. Et c'est pour ça que c'est là.
Rafael Nadal lui-même avoue que son niveau de jeu actuel ne lui permettra pas de gagner le tournoi. Plus de fautes que d'habitude, mais aussi une balle souvent trop courte et donc moins dangereuse pour l'adversaire. Et une concentration moins constante que d'habitude. Ce manque de confiance pourrait lui jouer des tours cet après-midi déjà face au Suédois Robin Söderling, auteur jusque-là d'un très bon parcours à Roland-Garros.
Football, l'élection présidentielle de la FIFA à laquelle Joseph Blatter est le seul candidat aura bien lieu cet après-midi. La proposition de report déposée par l'Angleterre a été rejetée ce matin. Le Valaisan a d'ores et déjà fait savoir que l'attribution des Coupes du Monde serait à l'avenir décidée par le Congrès au lieu du très controversé comité exécutif. Musique avec la sortie du premier album solo de Catherine Ringer depuis la disparition il y a presque 4 ans de Fred Chichin avec lequel elle formait un couple à la scène et à la ville au sein des Rita Mitsuko. Elle revient sur scène avec son fils Raoul Chichin à la guitare. Nous l'avons rencontré lors du concert qu'elle a donné la semaine dernière au D-Club à Lausanne. Elle nous parle de ce nouvel album Ring and Roll qu'elle présentera demain soir au public du Festinoche.
Tu ne prendras pas.
David, je vous présente Ring and Roll, Ring and Roll, Ring and Roll, Ring, un rôle. Nouvel album qui est composé d'une douzaine de chansons, disons chansons dansantes, des styles un peu pop, des styles un peu électro, rock, voilà, disons un style un petit peu varié, mais
La composition de cet album, cette création, évidemment, a été un peu particulière pour vous. Ça a été facile ou pas forcément ?
Bah, ça a été les deux. Parce que finalement, je m'y suis mis avec l'aide de mon producteur Marc Platy, qui est passé à un moment où je faisais rien de tout. J'étais complètement à plat même, et puis il m'a dit bah viens, on va faire de la musique, on a 10 jours, et on a, là c'est assorti assez bien, 6 chansons pop rock, et ensuite je me suis mis toute seule un peu après, et c'était émouvant, c'était, ça venait quand même bien, les choses venaient.
Là on est juste au sortir de votre concert ici au D-Club. On sent une énorme énergie, on vous sent revigoré peut-être par l'arrivée comme ça de ce nouvel album, mais par ce plaisir de vous retrouver toujours sur scène.
Oui, je sens que c'est un album qui est bien accueilli, que les chansons touchent et sont utiles. Et donc ça me revigore et ça me donne de la joie, oui, effectivement. Et j'aime beaucoup être sur scène, c'est vrai. Donc je suis contente aussi d'être dans de bonnes conditions avec des gens qui aiment ces chansons et qui sont contents de me retrouver, même sans Fred. Et puis on sent l'émotion aussi de du passé, du présent, d'une certaine longueur de temps entre nous.
Aussi quand même toujours cette omniprésence, j'ai envie de dire, de Fred. On le sent clairement dans la salle. Peut-être ouais, aussi parce qu'il y a un chichin aussi qui est à la guitare. Ça aussi, ça joue un rôle.
C'est vrai que sûrement ça fait un effet aussi de voir la descendance. Parce que les gens sont vivants. C'est comme ça qu'on ne meurt pas. Comme c'est la première chanson que je fais qui s'appelle Vive l'amour, qui dit bah ça, grâce à l'amour, on n'est pas mort. Dans beaucoup de sens du terme, mais principalement dans le sens de la reproduction, tout bêtement, ouais.
Pardonnez-moi,
vous avez eu quand même une période de traversée du désert un peu difficile.
J'ai pris un petit mois de repos, mais finalement, se reposer quand on est triste et quand on est malheureux, il faut passer par là. Se perdre dans l'action à tout prix, c'est pas bon, mais il faut aussi prendre le temps de la pause. Mais c'est venu assez, pas tellement longtemps après. Et par contre, pendant toute l'élaboration de l'album, ouais, j'ai eu un moment difficile l'année dernière. J'ai eu 6 mois où j'ai un peu pété les plombs, j'étais pas bien, donc j'ai arrêté. Et puis tout s'était justement beaucoup enchaîné en fait, puisqu'on était en tournée, et puis après, avec Fred, après il est mort, après on a continué, après voilà, après j'ai fait des chansons, après, et puis quand j'ai fait 80% de tout ça, je me suis trouvée pas bien. J'ai pété un peu les plombs, j'étais pas. Donc là oui, effectivement, j'ai eu une genre de traversée du désert quand même. Mais dans le désert, on se retrouve. On sait que quand on y va, des fois on peut en mourir, mais on peut aussi avoir des. Il fallait que je passe par là, sûrement. Maintenant, ça va mieux. Et je suis repartie, effectivement, je suis assez contente. Je suis entourée d'une bonne bande de gens, de musiciens, et aussi toute l'équipe de la tournée, tous les techniciens, on est des saltimbanques sur la route. On a une bonne ambiance, on rit beaucoup, tout en travaillant bien. Donc c'est bien.
Excuse-moi. Pardon, pardon, pardonne-moi.
On dit souvent que quand un des membres d'un groupe comme ça, surtout quand c'est un duo, disparaît, ça peut marquer la fin également de l'histoire musicale, on va dire, de l'artiste qui reste. Là, on voit que c'est pas du tout le cas. Le public est toujours derrière vous. La critique a largement salué cet album que vous avez fait toute seule. Ça fait plaisir, forcément.
Bah oui, ça fait plaisir, et aussi je sais pas si moi j'étais morte et que Fred était resté, lui aussi je pense qu'il aurait continué à faire des choses, parce qu'en fait on était deux compositeurs qui sont associés et ça s'est fait comme ça. Et puis moi j'ai une force de vie, je me suis sentie portée par le devoir aussi de continuer, je sais pas pourquoi, de le devoir, pas dans le mauvais sens, hein, mais justement sur scène les gens m'aiment. je pensais pas non plus arrêter parce que Fred serait mort, si vous voulez. Je pense pas que lui non plus aurait tout arrêté parce que je serais morte. J'espère qu'il aurait continué, parce que c'est vital pour nous. On faisait de la musique avant de se rencontrer chacun, on était professionnels tous les deux, des musiciens. C'était vital pour nous, pour les deux, ce métier.
Catherine Ringer, à voir donc demain soir sur la scène du Festi Neuch sur les bords du lac de Neuchâtel. Météo, Stéphanie Collère.
Il y aura encore quelques précipitations en début d'après-midi en plaine. Dans les Alpes, le passage à un temps sec aura lieu un peu plus tardivement. Ensuite, le ciel sera nuageux. Quelques éclaircies se développeront en vallée centrale et en montagne. Le mercure affichera des valeurs plus basses que ces derniers jours. Les maxima en plaine se situeront entre 12 et 14 degrés. Le 0 degré remonte vers 3200 mètres. La bise qui souffle sur le plateau va prendre de la force cet après-midi. Sur le bassin lémanique, elle sera même tempétueuse. Les rafales pourront avoisiner 90 km/h. En montagne, un vent du nord-est sera également fort, voire tempétueux. Demain, le temps sera assez ensoleillé et plus doux. Encore frais le matin, entre 7 et 10 degrés, les maxima seront proches de 20 degrés sur le plateau et de 23 degrés en Valais. La bise sera encore modérée à forte.
La météo avec Café Kikodoro et son système à capsules.
Il est 13h.